Rubrique « Il y a 70 ans ». Février 1945, la conférence de Yalta, « Peur de la révolution et partage du monde ». Il y a 70 ans, du 4 au 11 février 1945, le président américain Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant de l'URSS Staline se réunissaient à Yalta, en Crimée, alors que la fin de la guerre était proche, pour décider du sort de l'Europe. Ce ne fut qu'une des conférences qui jalonnèrent la guerre après celle de Téhéran en novembre 1943 et avant celle de Potsdam en juillet 1945, sans compter les multiples rencontres bilatérales ou tripartites entre chefs d'État ou ministres. Mais Yalta allait rester le symbole d'un accord de partage du monde. L'entente entre ses alliés contre l'Allemagne était une collaboration non seulement pour gagner la guerre, mais aussi pour s'opposer à tout mouvement révolutionnaire. Il n'avait pas oublié que de la Première Guerre mondiale était sortie une révolution qui, partie de la Russie en 1917, avait ébranlé le monde. Alliés contre le danger d'explosion révolutionnaire. Les représentants de l'impérialisme, en la personne de Roosevelt et de Churchill, se méfiaient de Staline. Il était certes un dictateur, ce qui ne pouvait que les rassurer, à la tête d'un État gangréné par la bureaucratie dont il était le représentant. Mais cet État était issu d'une révolution ouvrière, celle d'octobre 1917. Et si les travailleurs russes n'avaient plus le pouvoir politique en URSS, l'économie, elle, restait collectivisée. De ce fait, les représentants américains et anglais de l'impérialisme n'auraient pas vu d'un mauvais œil que l'URSS soit vaincue par Hitler. Mais il n'en fut pas ainsi. Roosevelt et Churchill durent donc collaborer avec un allié dont la fidélité ne leur paraissait pas assurée. En réalité, Staline était tout autant qu'eux décidé à éviter l'explosion d'une révolution en Europe. Celle-ci aurait pu secouer la classe ouvrière soviétique, lui donner l'envie et la force de renverser le régime bureaucratique de Staline. Mais celui-ci n'en dut pas moins prouver aux alliés impérialistes sa volonté de maintenir l'ordre établi. La crainte d'une révolution engendrée par la guerre, la misère et l'instabilité, conséquence de la destruction des appareils d'État, n'était pas seulement fondée sur le souvenir des révolutions passées, mais sur les événements révolutionnaires qui agitaient alors l'Italie et la Grèce. Italie, Grèce, Allemagne, la peur de révoltes ouvrières. En Italie, dès le début du mois de mars 1943, en plein conflit mondial et alors que Mussolini était au pouvoir depuis 21 ans, une grève contre la vie chère, partie de l'usine Fiat de Turin, s'étendit aux autres villes industrielles du nord jusqu'au sud du pays. Au total, 300 000 ouvriers firent grève contre les bas salaires, mais aussi et surtout parce qu'ils en avaient assez de la guerre et de la dictature. Cette vague de grève allait contribuer à l'écroulement du régime de Mussolini et réveiller l'espoir des opprimés. Cette agitation, dans laquelle la classe ouvrière joua un rôle prépondérant, continua après le débarquement des troupes anglo-américaines en juillet 1943, après l'arrestation de Mussolini et la mise en place d'un nouveau régime qui ressemblait beaucoup à l'ancien. Un an plus tard, en mars 1944, toute l'Italie du Nord connut de nouveau une vague de grève qui toucha 1 200 000 travailleurs. Mais le dirigeant du Parti communiste italien, Togliatti, de retour du RSS, assura les alliés anglo-américains qu'ils n'avaient rien à craindre. Il déclara que le PCI, loin d'envisager une révolution, apportait son appui à, entre guillemets, un gouvernement fort, capable d'organiser l'effort de guerre et dans laquelle il y avait, selon lui, entre guillemets, place pour tous ceux qui veulent se battre pour la liberté de l'Italie. Cela incluait, entre autres, le roi, compromis jusqu'à la moelle avec le fascisme. Le 22 avril 1944 se constitua un gouvernement d'union nationale reconnaissant l'autorité du roi avec Togliatti comme vice-président. Cette politique d'alliance dans des fronts de résistance allant des PC à des partis d'extrême droite et à des forces politiques qui s'étaient déjà compromises au pouvoir fut appliquée partout. En Grèce comme en Italie, la population se révoltait contre la guerre et la misère. Mais le Parti communiste, qui avait organisé la résistance à l'occupation allemande, accepta de négocier avec les représentants de la dictature Oni de Metaxas et le roi, qui tous avaient fui en exil à Londres, et fit passer ses milices sous le commandement militaire anglais. Le 12 octobre 1944, les troupes allemandes évacuaient Athènes et 3 jours plus tard, les troupes britanniques y faisaient leur entrée. Début décembre, à l'occasion d'une manifestation à Athènes, Churchill donna pour consigne au commandement britannique de ne pas hésiter à, entre guillemets, agir comme si vous vous trouviez dans une ville conquise où se développe une rébellion locale. Le commandement britannique imposa la loi martiale et continua, jusqu'au 5 janvier 1945, à réprimer la population qui se révoltait contre le retour de ses politiciens haïs. Au travers des événements en Italie et en Grèce, les Alliés purent vérifier la loyauté de Staline et son soutien total à la mise au pas de la population. Mais le danger révolutionnaire n'était pas écarté pour autant. Plus encore que la Grèce et l'Italie, c'était la possibilité que les classes ouvrières allemandes et japonaises réagissent, qui inquiétait les dirigeants américains et anglais et aussi Staline. Leur politique, initiée par les gouvernements américains et anglais dès 1941, fut de terroriser la population ouvrière, de la disperser par des bombardements massifs et systématiques des grandes villes, comme ceux qui à Dresde rasèrent littéralement la ville du 13 au 15 février 1945. La même terreur fut appliquée contre la population au Japon. En 1945, 100 villes furent bombardées et 8 à 10 millions de leurs habitants durent les fuir avant même les bombes atomiques que les États-Unis allaient larguer sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Le partage de l'Europe. La conférence de Yalta se tint 3 mois avant la fin de la guerre, mais les futurs vainqueurs discutaient depuis déjà longtemps des zones d'influence qui leur reviendraient. Ces marchandages se basant sur les rapports de force militaires existants sur le terrain n'étaient alors pas favorables aux Occidentaux. L'armée soviétique, qui avançait à grands pas en Europe de l'Est, n'était déjà qu'à une centaine de kilomètres de Berlin. C'est dans ce contexte que se discuta le sort qui serait fait à l'Allemagne une fois celle-ci définitivement vaincue. Roosevelt, Churchill et Staline tombèrent vite d'accord pour imposer le démantèlement du pays. L'Allemagne fut divisée en 3 zones d'occupation, anglaise au nord-ouest du pays, américaine au sud-ouest, soviétique à l'est, auxquelles s'ajouta une zone d'occupation française prélevée sur les zones occidentales. La capitale Berlin fut elle aussi divisée en 4 zones. C'est en fait toute l'Europe qui allait être divisée en une zone contrôlée par l'URSS à l'est et une autre à l'ouest, contrôlée principalement par les États-Unis. Une fois le danger de révolution écarté avec certitude, l'entente entre les représentants de l'impérialisme et de la bureaucratie allait vite voler en éclats pour faire place à la guerre froide, froide seulement parce qu'elle ne dégénéra pas en guerre mondiale, opposant l'impérialisme américain à l'URSS. L'alliance militaire entre les États impérialistes et l'URSS stalinienne pour vaincre les puissances de l'Axe se doubla ainsi d'un accord politique pour empêcher à la fin de la guerre toute révolution ouvrière qui aurait pu renverser le système capitaliste. La fin de la boucherie impérialiste ne fut pas celle du système économique qui l'avait engendré. 70 ans après, l'humanité entière paye très cher cette survie d'un ordre social qui ne cesse d'engendrer crises, guerres et massacres. Aline Rethès.